Chapitre 7. 21 juillet. Depuis hier, je ressemble considérablement à Ajax, exterminant dans sa colère tout un troupeau de moutons qu'il a pris pour une légion d'ennemis. Par le ciel, Yvonne, je comprends dorénavant les fureurs aveugles, bien que je trouve Ajax extraordinairement ridicule. Encore, s'il avait eu d'aussi bonnes raisons que moi-même de livrer son âme aux passions dévastatrices. Je venais de donner ma lettre au facteur et j'allais me retirer dans ma chambre afin de puiser dans la méditation des forces pour la lutte quand je fus distraite de cette idée par l'arrivée de maîtresse Jamin. Elle avait l'air réjouie de quelqu'un qui vient d'assister à l'enterrement de toute sa famille et, bien qu'en certains moments la famille soit très désagréable, on n'aime pas généralement l'ensevelir en masse. « Je voudrais parler à Madame Azé et à Madame de Ligne, » me dit-elle avec consternation. « Grand-mère est dans le grenier et Madame de Ligne dans la cave, » répondis-je. C'était l'exacte vérité, ces dames ayant découvert la veille que l'ordre pourrait bien n'être pas le principe dominant de la maison. Alors il a été convenu que grand-mère commencerait par un bout, ma cousine par un autre, et qu'on se rejoindrait au milieu, ce qui arrivera peut-être dans quelques 20 ans. Il est probable, en effet, que Madame de Ligne, au lieu de regarder si les barriques avaient besoin d'être rebattues, est sortie de la cave avec une méditation en poche sur le danger de l'amour du vin. Mais les événements tragiques de la journée ont changé le cours de ses idées. Quant à grand-mère, que j'ai suivie un instant, elle s'est promenée avec grande joie dans ses greniers, dont elle n'a vu que la beauté et les vastes proportions. Elle s'est assise pour se reposer sur un vieux coffre, a mis ses lunettes et, aussi tranquillement que dans son salon, a lu « De l'emploi du temps » de Madame de Genlis, qui se connaissait si bien en toutes choses, une seule petite exceptée, car il me paraît qu'elle eût pu commencer par apprendre à ne pas trébucher en marchant dans la vie. C'est grand-mère qui, avec beaucoup de détails, m'a raconté l'histoire de ses amours et, à mes cris indignés, elle m'a répondu tranquillement « Que veux-tu, ma petite fille? Ce n'était point joli, mais dans ce temps-là... » Voilà, voilà, la tolérance nous perd, les nations se démoralisent, et Claude, ton ami, se sent en voie d'intolérance farouche. Je suis d'une humeur à prendre en grippe Genlis, la cave, le grenier, la maison et tout ce qu'il y a dedans. Mais je divague, chantons de moutons, comme Madame des Houlières. Dans la cave, répondit Madame Jamin de plus en plus concernée. « Parfaitement. C'est que c'est bien dangereux, allez, mademoiselle, si elle tombait. »« Elles vont nous revenir en miettes, évidemment, » répliquai-je avec gravité. « En attendant, je vais les sonner. » Et j'entrai dans la grande cuisine, voûtée et enfumée, pour mettre en branle la cloche qui nous appelle chaque jour à nos devoirs domestiques. « Vous avez l'air au désespoir, Madame Jamin, » dis-je en m'arrêtant. « Ah, mademoiselle, il se passe tant de vilaines choses, allez !»« Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait ?»« Ça ne me fait rien à moi, mais c'est tout de même triste. Le monde est bien méchant et vous êtes bien jeune, mademoiselle Claude. Tenez !»« Vraiment ?» dis-je en dressant l'oreille. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame Jamin ?» La bonne femme secoua la tête d'un air navré. « Il faut se surveiller quand on est jeune, mademoiselle. »« Enfin, quelle est votre idée ? » dis-je en m'impatientant. « Mais voici grand-mère qui appelle. Montez dans sa chambre. Quand Madame de Ligne passera ici, je lui dirai d'aller vous rejoindre. » Ma mission remplie, l'incident me tourmentait et, sous la consternation mystérieuse de maîtresse Jamin, je flairais un danger. J'allais m'asseoir sous la fenêtre ouverte de grand-mère, sur le rebord d'un timbre qui sert de déversoir aux eaux des gouttières. Mais maîtresse Jamin parlait aussi bas qu'un criminel poltron qui avoue ses turpitudes, et je me désespérai quand Madame de Ligne me tira d'embarras. « C'est à ne pas y croire, » s'écria-t-elle. « Comment voulez-vous qu'ils s'aiment? Ils se connaissent trop. » « Le scepticisme du mot ne te paraît-il pas plaisant ?»« Le monde dit qu'ils sont en grandes amitiés. » reprit Madame Jamin de sa voix ordinaire. « Je voyais si bien que vous n'y pensiez pas, c'est pourquoi je suis venue vous le dire. Jamin ne voulait pas, mais je trouve qu'il n'avait point raison. »« C'est bien simple, Laure, » dit grand-mère. « J'écrirai à monsieur de Chétigny pour que son fils ne vienne plus aussi souvent ici. Si vous ne voulez pas du mariage, vous ferez bien, madame, car le monde sont si méchants. Un malheur est vite arrivé. Allez. À ces mots, que je n'ai pas bien compris, car je ne vois pas trop quel malheur pourrait nous menacer, grand-mère et madame de Ligne ont jeté des cris perçants. Ah, ça ! S'écria grand-mère en colère. Êtes-vous folle, maîtresse Jamin ? Allez-vous venir me dire qu'on manque de respect à ma petite fille et qu'elle puisse être soupçonnée ? Non, 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 madame, pour sûr, répondit la bonne femme avec épouvante. Mais vous savez bien comment sont le monde par ici. On sait bien tout de même que monsieur Hervé vient pour le bon motif. Il ne manquerait plus qu'on crût le contraire, s'écria madame de Ligne. C'est par trop absurde. Il n'y a pas de doute, répondit madame Jamin, qui, ne sachant plus comment se tirer de la façon bête dont elle avait commencé ses révélations, s'embourbait à chaque mot. Seulement, dans votre grand rang, vous n'avez point la même liberté que chez nous. Hier, il était nuit, tout à fait, quand vos fermiers ont vu mademoiselle Claude et monsieur Hervé entrer dans l'église, où ils sont restés longtemps. Pardi, la belle affaire, répondit grand-mère. Ils sont allés assez de fois regarder ensemble cinq coqueluchons. En ce moment, madame de Ligne se pencha à la fenêtre et, m'apercevant, la ferma vivement. J'ai tout fait de colère. Soupçonné de quoi ? J'aurais étranglé avec bonheur cette affreuse bonne femme qui venait déranger nos plans, révéler notre innocente équipée et préparer le terrain à monsieur de Chétigny, de telle sorte qu'il serait probablement reçu comme le peut être le diable quand il imagine de plonger dans le bénitier. Cependant, son intention était bonne. Elle pensait rendre service en racontant les propos des paysans qui sont dans notre contrée curieux comme des nonnes, cancaniers comme on ne l'est pas et méchants comme la gale. Néanmoins, quand elle partit, mon premier mouvement fut de courir à elle afin de la secouer, au moral j'entends, comme les pommiers de notre jardin. Mais je réfléchis qu'on ne traite pas avec cette désinvolture un aussi vieux serviteur et que d'ailleurs, si elle était bête, il fallait m'en prendre à la nature qui devrait bien un peu mieux entendre l'intérêt des hommes en déposant un bon grain d'intelligence dans toutes les cervelles. Le déjeuner qui sonna fit diversion au tumulte de mes pensées. Je m'assis à table sans le moindre embarras, car j'avais pris subitement la résolution de tenir tête à l'orange et de dire avec la plus grande simplicité qu'aimant Hervé, j'entendais l'épouser. Mais à ma profonde surprise, je n'eus pas besoin de me débattre. Grand-mère et madame de Ligne avaient tout bonnement décidé de régler entre elles cette petite affaire. Après le déjeuner, grand-mère appela René et lui dit, en tirant une lettre de la poche de son tablier, « Quand vous aurez dîné, René, vous porterez cette lettre à Chétigny. » Sortir par cette chaleur-là, comment madame veut-elle que je fasse ? Ce n'est pas bien loin, mais prenez pâté si vous voulez. Montez sur pâté pour qu'il me fiche par terre et que je revienne avec des côtes de moins. Eh bien, allez à pied, sur la tête ou sur les mains, comme vous voudrez, répondit grand-mère qui s'impatientait. Oh, sur la tête, ce serait bien fatigant, répondit le bonhomme d'un ton goguenard. Et sur les pieds, ça me dérange de mon ouvrage. J'ai à bêcher mes pommes de terre et à pomper de l'eau dans le grand bassin pour arroser. Enfin, s'écria grand-mère en frappant du pied, je vous aurais dit de sarcler que vous m'auriez répondu que vous vouliez monter sur le clocher de Cizé. N'y allez pas, je vais charger le fermier de la commission. C'est ça, comme si je n'étais pas capable de la faire. Allons, que madame me donne la lettre, je vais y aller tout de même. Grand-mère, sciemment ou non, avait employé le plus sûr moyen d'être obéie. Il y a toujours eu un terrible antagonisme entre la cuisine et la ferme. Or, il suffit qu'on ait l'air de protéger Capulet pour que Montaigu déploie au plus vite un zèle extraordinaire. En attendant, pensais-je, il y a des chances pour que monsieur de Chétigny soit ici avant d'avoir reçu la lettre. Les domestiques, en effet, n'avaient pas fini de dîner quand un vieux panier, dont les jantes ne tiennent guère et dont la couleur ne se peut plus deviner, entra dans la petite cour dont la porte avait été précipitamment ouverte par Marie Lavache et s'arrêta devant la porte de la salle à manger. Madame de Ligne tricotait dans le salon, et grand-mère, confortablement installée dans un grand fauteuil, avait laissé tomber son livre sur ses genoux et faisait son petit somme digestif, un mouchoir étendu sur son visage pour se préserver des mouches. « Quoi, qu'est-ce ? Qu'y a-t-il, mes enfants ? » dit-elle en s'éveillant. L'arrivée de M. de Chétigné parut émouvoir Madame de Ligne pendant que grand-mère disait avec tranquillité « Ce n'était pas la peine d'écrire, Laure. »« Vous m'aviez écrit ? Pour quelle raison ? » demanda M. de Chétigné. Mais avant de donner aucune explication, on me mit à la porte comme si ma destinée, qui allait se jouer sous ses voûtes centenaires, ne devait pas plus m'intéresser que celle du grand Turc. J'allais promener mon anxiété derrière l'église, où se trouvait, dit-on, le cimetière des moines. C'est un coin sauvage dans lequel les framboisiers viennent en touffes épaisses. Mais l'herbe y est dure et la terre mauvaise, bien que les cyprès, les sureaux et les lilas y vivent à l'aise. Deux grands tilleuls, dont les branches basses caressent le sol, donnent une ombre impénétrable. En face d'eux, dans l'angle d'un mur, grand-mère fait faire une niche dans laquelle a été déposée une statue de la Vierge qu'une vitre protège de l'humidité. Des lauriers, des lilas blancs entourent ce petit sanctuaire et des cerceaux de barrique, disposés en dôme au-dessus de la niche, sont recouverts d'une viorne odorante. C'est l'endroit favori de grand-mère qui, quotidiennement, dans la belle saison, y vient dire ses prières. Quand on a gravi les marches de gazon qui mènent à la Vierge, on dépasse le mur de toute la tête et il m'est arrivé souvent de profiter des tas de bourrées, toujours déposées en été de l'autre côté du mur, pour descendre dans le chemin extérieur. C'est la prouesse que j'ai exécutée une fois encore, sans souci de ma dignité, et j'allais attendre la voiture de M. de Chétigné dans l'avenue carrossable qui relie le Volnay à la route. Malheureusement pour mes intérêts, je n'attendis pas longtemps. En m'apercevant, le bon bourgmestre descendit de son carrosse et, s'approchant de moi, répondit à mes questions pressantes « Ça va mal, Claude, très mal !»« Mais vous savez ce qui s'est passé hier entre Hervé et moi ?» m'écriai-je. « Oui, mon enfant, me dit-il, en me prenant la main avec tendresse. Mais ni Madame Azé ni votre cousine n'ont bien accueilli ma demande. Elles ont été glacées,
surtout Madame de Ligne.
Je me croyais en Sibérie. » ajouta-t-il avec un fin sourire. « Vous n'êtes pas au milieu des glaces avec moi, » dis-je avec chaleur. « Vous comprenez que rien n'est perdu, c'est la première impression. Je ne pense pas qu'on veuille disposer de ma personne sans me consulter, » ajoutai-je, les yeux brillants de colère. « eh bien, voulez-vous bien être sage ?» me répondit-il avec son beau calme flamand. « Allez trouver ces dames, c'est elles et non moi qui doivent vous rendre compte de ma visite. » En approchant du salon, par le jardin, j'entendis quelques bribes d'une conversation animée. « Nous ne devons pas y consentir, Agathe, »
disait Madame de Ligne.
« C'est la jeter dans une position misérable. » « Sans aucun doute, elle ne peut pas épouser un homme aussi laid, » répondait grand-mère. « Elle aurait des enfants affreux. » « La pauvre petite, à 20 ans, acceptait une vie de soucis et de privations. Ses filles seraient des laiderons, jamais elle ne trouverait à les marier. Que te semble de cette sollicitude pour des êtres qui ne vivront peut-être jamais ? Amusante affaire que l'esprit humain !»
Madame de Ligne,
après un grand effort sur elle-même, me mit au courant de la situation. « Je le savais, dis-je franchement. C'est moi qui ai dit hier soir à Hervé de demander ma main aujourd'hui. Nous nous aimons. » « Tu l'aimes ? Lui en as-tu fait l'aveu ? »
demanda Madame de Ligne.
« Il m'a questionné. J'ai répondu la vérité, naturellement. » « Ce n'est point joli, dit grand-mère indignée. Une demoiselle ne doit dire ça qu'à son mari. » « Alors elle n'est plus une demoiselle, grand-mère. Et pour devenir mari, il faut bien qu'il sache un peu à quoi s'en tenir. » « Mais Hervé ne peut pas devenir ton mari !»
reprit Madame de Ligne avec agitation.
« Comment peux-tu supposer, ma pauvre enfant, que nous te livrerons au triste sort d'un avenir à peine assuré, de goûts continuellement contrariés faute d'argent, de l'ennui écrasant d'une existence sans distraction de ton âge ? Est-il de notre devoir d'accepter que tu t'étioles à tout jamais, cœur, corps, intelligence, dans une maison mortellement triste, d'où tu ne pourrais plus sortir. » Le ton et la forme étaient positivement éloquents. « Métiolet, dis-je sans frissonner devant le tableau épouvantable que Madame de Lignes dessinait à grands traits d'après ses souvenirs personnels. « Je ne m'étiolerai pas plus que je ne l'ai fait jusqu'ici. Cette vie répond à mes goûts et j'aime, » ajoutai-je dramatiquement. « Tu aimes, tu le crois du moins, »
répondit Madame de Lignes.
« C'est donc hier soir que tu as fait cette sottise ?»« Sottise pleine de douceur, » dis-je en souriant, et accomplie sous l'égide de cinq coqueluchons qui avaient l'air, je vous assure, de plaider en faveur de notre folie. « C'est extraordinaire, Laure !» reprit grand-mère, qui, lorsqu'elle est déroutée par quelque fête, s'adresse toujours à ma cousine. « Je suis très mécontente de ma petite fille. »« Sérieusement, Claude ?»
reprit Madame de Lignes.
« Tu as commis une étourderie. Elle n'ira pas plus loin parce que tu as affaire à un homme bien élevé, mais maintenant, n'en parlons plus. Dans 3 jours, nous écrirons poliment le résultat de nos réflexions à Monsieur de Chétignier, et ce résultat ne peut être qu'un refus. » Je tombai des nues. C'était inouï, réellement, de s'imaginer que les choses se passeraient ainsi, sans révolte et sans cri. Prenez garde, dis-je, commençant à m'émouvoir sérieusement. Je n'ai pas un caractère léger. Quand je dis que j'aime Hervé, c'est que je suis sûre de l'aimer, et je veux l'épouser. À ces mots, prononcés d'un ton très ferme et très ému,
grand-mère et Madame de Lignes se regardèrent d'un air consterné.
« Tu ne peux pas te marier sans mon consentement, » dit grand-mère. « Je le sais bien, ma chère grand-mère, et Dieu sait que je n'en ai nul désir. Mais il faut que vous le donniez, ce consentement. Ne vous êtes-vous pas trouvée heureuse au Volnay, où vous avez toujours vécu simplement ? D'ailleurs, nous avons déjà fait notre budget. Nous sommes des gens pratiques, je vous assure. Hervé écrit un livre qui aura peut-être un grand succès. » Ce sera l'ouverture d'une nouvelle existence pleine d'intérêts et une source de fortune. Les savants passent leur vie à tirer le diable par la queue, répondit grand-mère d'un air distrait. Eh bien, si nous sommes enchantés de la tirer, cette queue, cela ne regarde que nous. Ton Hervé est laid, reprit grand-mère d'un ton concluant. Mais ce n'est pas vous qui l'épouserez, grand-mère, m'écriai-je avec désespoir. Sa figure me plaît à moi. Et je vous assure que vous êtes seule à le trouver laid parce que vous n'aimez que les hommes d'une beauté exceptionnelle. Je vous répète que, depuis des années, j'ai la plus vive affection pour Hervé et que mes rêves d'avenir n'ont jamais varié. Tu y pensais donc quand tu as refusé ce bon parti de l'autre jour ?
Demanda Madame de Lignes.
J'y pense depuis 6 ans, répondis-je avec tranquillité. Ma pauvre cousine avait l'expression penaude de l'astrologue qui, regardant les étoiles, s'est laissé choir dans un puits. Au fond de sa citerne, elle réfléchissait avec un bien grand étonnement au cas terrestre dont le plus surprenant est assurément celui d'une fille de 20 ans et d'un homme de 26 qui, se voyant 4 fois par semaine dans l'intimité de la campagne des souvenirs, en profite pour s'aimer. Tu conviendras qu'il y a bien de quoi précipiter un astrologue dans un bain glacé. Grand-mère ébranlée se tourna vers ma cousine. Elle a l'air sérieuse, Laure. Eh bien, Claude,
dit Madame de Lignes,
sortant de son puits et parlant avec la résolution de quelqu'un qui se décide, jusqu'à nouvel ordre, à ne vivre ni dans les nuages ni dans l'eau, ainsi qu'il en a été souvent pour elle en face de graves décisions. Eh bien, Claude, nous allons causer ensemble, ta grand-mère et moi, et ce soir, nous te parlerons de nouveau de ce triste mariage. « Triste mariage quand on s'aime, » m'écriai-je. « Nos familles, nos goûts, nos situations sont assorties. Ensuite ?»« Bien, bien !»
interrompit Madame de Lignes avec impatience.
« Maintenant que nous connaissons ta pensée, laisse-nous causer. »« Crois-tu par hasard que le résultat de leur méditation ait été bien satisfaisant ?» Le soir, ma cousine, soutenue par grand-mère, m'a tenu ce discours. « Mon enfant, nous avons beaucoup réfléchi et nous ne pouvons pas te permettre de jouer ta vie entière sur un sentiment qui pourrait bien n'être qu'une illusion, puisque tu ne vois, pour ainsi dire, qu'Hervé. Ne te récris pas, tu viens d'avoir 20 ans, dans 11 mois tu seras majeur, Et si, dans ce temps-là, tu n'as pas changé d'avis, nous reparlerons du projet. Nous allons écrire dans ce sens à M. de Chétigné, en le priant de faire cesser les visites de son fils. « Ne plus le voir ? » m'écriai-je avec terreur. « Du moins, aussi souvent, il viendra avec son père, c'est-à-dire plus cérémonieusement. » « C'est amusant, » dis-je avec un visage allongé, en sentant bien que la décision ne pouvait plus être combattue. « Bah, petite fille, si tu l'épouses, tu le verras bien assez dans ta vie, » m'a dit grand-mère, qui est généralement pessimiste quand il s'agit de la vie maritale. « Comme c'est consolant pour le présent. Ne trouves-tu pas que, moi les parfums et les fleurs, je ressemble à une victime antique, sacrifiée à un dieu bien aveugle et bien stupide ?» Ma vie délicieuse, c'en est fait. Oh, ma chère, un seul homme a été sage sur cette terre, c'est Diogène et son tonneau. Puisque les hommes, pour se bien diriger eux-mêmes, ont absolument besoin d'un modèle, on devrait toujours leur présenter ce sage qui savait si bien simplifier la vie et qui n'aurait même pas eu besoin de 6 000 francs de rente pour vivre content. Et s'il avait voulu épouser une fille sans le sou, il l'eût fait séance tenante. Et aux grands-mères et aux cousines qui se fussent jetées devant lui pour l'en empêcher, il eût crié, avec la simplicité de langage qui le caractérisait, « Ôtez-vous de mon chemin !» Après quoi, il eût fourré sa femme dans le tonneau, lui après, fermé la porte, s'il y avait une porte, et laissé les protestations de la prudence humaine s'évaporer en vains sons. Ces païens nous étaient bien supérieurs. « Adieu, mon état d'âme est une catastrophe !»